Bon matin, Nouvelle Vie. Content d'être là ce matin pour apporter la parole dans la série. Merci à Livio pour les annonces, l'introduction. Vous savez, c'est le fun de faire partie d'une équipe. La Prairie, c'est pas juste un pasteur, c'est toute une équipe. Alors, on travaille ensemble et on a du fun ensemble, on a du plaisir de travailler ensemble. Alors, comme j'ai dit, j'ai le privilège d'apporter la parole dans la série 3 en 1. On parle de Trinité, on parle de la Trinité de Dieu. Et bien que nous parlions de Trinité, du Dieu 3 en 1, j'aimerais partager à propos du Dieu 1 en 3. Nuance. Hein? Les pères de l'Église parlaient de la Trinité, ils l'appelaient la Triunité. Okay? La Triunité est pour décrire ce qu'on appelle, nous, en théologie, la Trinité. Et la Trinité, en théologie, elle vient toujours avec une doctrine qui est sœur, sa sœur, qui est l'unicité. On ne peut pas parler de Trinité sans parler du Dieu unique, de parler que Dieu est un. Okay? Alors, c'est un Dieu en trois, trois en un. Tu sais que ce n'est pas des bonnes mathématiques, mais c'est comme ça que Dieu est. Okay? Alors, je sais tout ça et c'est un peu compliqué et je ne vais pas avoir la prétention de résoudre cette équation. Mais je vais essayer d'éclaircir quelque chose. Vous savez, la Bible dit en Deutéronome chapitre 6, ça dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Alors, dès le début dans la Bible, ça nous parle du Dieu unique, du Dieu qui est le seul Dieu chez les Juifs. Cette phrase-là, ce texte biblique-là, c'est le schéma. Okay? C'est le schéma, il apprenait par cœur, Deutéronome 6, les premiers versets, ils apprenaient ça par cœur à leurs enfants et tout cela. Et c'était une phrase qu'on répétait souvent, l'Éternel, Yahweh, Jéhovah, et Elohim, seul Dieu, seul Jéhovah. Alors, c'est comme s'il disait Dieu, Dieu est le seul Dieu, mais le mot Elohim est au pluriel, mais pluriel chez les Hébreux, le pluriel, ce n'est pas toujours une question de quantité, c'est aussi, on met le pluriel aussi pour parler de qualité ou de qualifier ou de dire, vu que je n'ai pas de qualificatif assez grand, on met au pluriel. Alors, c'est comme s'il disait Dieu qui est sur Dieu, grand Dieu, magnifique Dieu, est le seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu unique. Et pourquoi je vais aborder cette idée ce matin, qui m'a apporté vraiment à travailler ce sujet-là. Je discutais avec une dame il y a quelques semaines, qui me parlait comment est-ce qu'elle avait saisi quelque chose avec Jésus, puis comment Jésus avait changé sa vie, et que maintenant elle avait la paix à l'intérieur d'elle avec Jésus. Jésus était vraiment devenu son sauveur, et elle comprenait des choses qui faisaient que maintenant elle se sentait bien avec Jésus. Mais elle me dit, par la suite, elle me dit, « Mais avec Dieu, j'ai bien de la misère. » Okay, c'est comme, avec Jésus, ça va, mais avec Dieu, j'ai de la misère. Je pense que je comprends quand même ce qu'elle voulait dire, en voulant dire, ben moi, mon père physique, c'était pas facile, la relation que j'avais avec lui. Alors, j'ai de la misère à comprendre la relation de Dieu, le Père, qu'on a. Alors, je comprends ça, OK, je suis quand même pas bête, là, je comprends. Mais en même temps, tu peux pas dire que tu as une super relation avec Jésus, puis dire qu'avec Dieu, tu as de la misère. Parce que Jésus, c'est Dieu. D'accord? C'est vrai? Je comprends l'idée là, que la paternité divine, on a de la misère. Mais Jésus est aussi le Père. Et le Père est Jésus, Dieu. Tout. C'est comme... Tu sais, le Dieu, ce n'est pas comme divisé en trois. Une pointe, trois pointes de tarte, puis ils sont chacun un tiers, puis les trois ensemble forment un Dieu. Ils sont tous Dieu ensemble. Ce n'est pas une addition, c'est « ils sont ». Les trois sont le « je suis ». C'est le « je suis » sont trois. C'est un peu étrange. Ben, ce n'est pas un peu étrange, c'est étrange. C'est pas un peu, c'est quand même étrange, pas vrai? On n'a pas à choisir la personnalité de Dieu qui nous convient. On n'a pas à tasser ou à rejeter une des trois personnalités. On doit accepter Dieu dans son entier. Dieu est Dieu. On n'a pas à dire, ah, mais Dieu le Père, mais Dieu le Père, un peu de misère, tu sais, c'est le juge, c'est le juge qui nous condamne, c'est Dieu le Père, c'est difficile, tu sais, c'est un peu plus légaliste. Mais moi, je vais prendre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance, ça me donne la chair de poule, ça me fait du bien, et on peut faire des miracles, je veux la puissance. Ou je veux Jésus, parce que Jésus, il est doux et humble de cœur. Jésus, son joug est léger. Sweet Jesus. Un feel good Jésus. Jésus, le Père, le Saint-Esprit sont un. Si Jésus est un feel good, mais Dieu le Père est feel good. Si Dieu est juge, bien Jésus est juge. Si le Saint-Esprit est puissant, Jésus est puissant, le Père est puissant. C'est un Dieu, un seul Dieu. Je n'ai pas à choisir. Je n'ai pas à choisir. Moi, je m'entends mieux avec Jésus, donc Jésus, ça va être correct. Non, mais c'est Jésus, c'est tout. On prend tout de Dieu. Le prophète Isaïe a prophétisé dans environ 500 ans environ avant Jésus et a prophétisé la venue de Jésus. Et dans son époque, c'était un peu sombre puisqu'il y avait la déportation d'Israël qui allait s'accomplir et tout cela. Donc, il y a une période sombre et il prophétise comment c'est. Et dans ses prophéties, le chapitre 8, il parle comment que le peuple est dans les ténèbres. Et il commence le chapitre 9 en disant, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. » Et là, c'est comme si, dans ses prophéties qu'il fait un peu, voici, vous avez ça, le jugement de Dieu, le roi d'Assyrie va prendre, il est comme un océan qui va tout raser sur son passage. Puis ça va, c'est comme la fin un peu du royaume d'Israël tel qu'il le connaissait, de Juda. Et là, lui, là, il dit, il y a comme, dans sa vision, il y a comme un espace de lumière qui est là. C'est comme si, il y a une lumière qui brille dans le ténèbre. Et là, il arrive avec son verset 6, qui est souvent, ou verset 5 plutôt, ça dépend de la version que vous avez, ça peut être le 5 ou le 6, mais en tout cas, peu importe. Il arrive avec le verset, et souvent, on prend comme un verset de Noël, qu'on lit à Noël. Mais voici ce que ça dit. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il y a une lumière qui arrive au bout du tunnel. Un enfant va naître. Un enfant va naître, et cet enfant-là, prophétiquement, c'est le Messie. Le Messie, c'est Jésus. Okay? Alors, il prophétise la venue de Jésus qui s'en vient. Il prophétise cela, il dit, on l'appellera, et le mot hébreu parle, on criera son nom. On criera son nom. On va crier le nom de Jésus, on va crier son nom. Admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est Jésus, là. OK? Père éternel, Prince de la paix. Oh, ma voix tenue. Hein? C'est bon, ceux qui me connaissent savent que ma voix parle d'habitude, hein? A tenu, c'est le test du début du sermon. Admirable conseiller ou merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller. D'autres traditions disent le Dieu des merveilleux conseils. Il va donner des merveilleux conseils. Un enfant nous est né qui donnera de merveilleux conseils. Ben, moi, je suis papa, là, puis c'est moi qui donne les conseils. OK? Ce n'est pas l'enfant qui donne les conseils, c'est le père qui donne les conseils, pas vrai? OK, mes enfants maintenant sont grands, 40 ans, 41 ans, 39 ans, puis je donne encore des conseils. Okay, je donne encore des conseils, c'est vrai. Je donne encore des conseils. Mais ici, voici un enfant nous est né, et on l'appellera le conseiller merveilleux. Wow! Hey, son nom, c'est merveilleux. Vous savez que quand on lit dans les juges l'histoire de Samson, son père, avant que Samson naisse, sa femme devient enceinte, c'est l'ange de l'Éternel qui vient. Et l'ange de l'Éternel, c'est une représentation de l'Ancien Testament, d'un Dieu qui prend une forme humaine, une forme de l'ange, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Et là, l'ange lui dit, tu vas avoir un bébé. Et là, ensuite, le père, le mari de Manoah, il ne croit pas. Alors, l'ange va venir, il va parler à lui aussi. Et là, lui, il va dire à l'ange, « Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand la parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Mon nom, il est merveilleux, mon nom. On l'appellera merveilleux. On l'appellera merveilleux. Ça veut dire merveille, ça veut dire miraculeux, ça veut dire exceptionnel, remarquable, hors du commun, hors de l'ordinaire, extraordinaire. C'est ça que le mot veut dire ça. Tout est inclus dans ce petit mot hébreu-là. C'est la nuance. Souvent, on va l'utiliser pour les miracles. On a chanté « Tu es le Dieu des miracles ». C'est l'enfant qu'on parle. On l'appellera miraculeux. On l'appellera extraordinaire, hors du commun. C'est un peu ça, c'est comme s'il disait ça en même temps. Le conseiller. Wow! Celui qui est le conseiller du roi, il était toujours à côté du roi, puis c'est lui qui donnait les conseils au roi, qui lui expliquait comment faire, puis tout ça. Wow! On l'appellera Dieu puissant. Hey, on ne peut pas donner des titres comme ça à des humains, à des êtres normaux. Pas vrai? On ne peut pas juste dire, « Ah, quel beau petit bébé, on va t'appeler Dieu puissant. » C'est vraiment un peu bizarre, c'est un peu étrange de dire à un enfant, « On t'appellera Dieu puissant. Hein, » Dieu puissant. En hébreu, c'est El Gibor. El Gibor. Appelez pas vos enfants comme ça, s'il vous plaît. El Gibor. En fait, c'est un nom de Dieu, c'est un nom qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, ce mot-là, et à répétition, quand on parle de l'Éternel puissant, ou encore on pourrait traduire, c'est le Dieu héros. Souvent, c'est traduit Dieu héros. Ça dépend de la traduction que vous avez. Dieu héros. On l'appellera le Dieu héros, le conquéreur, le vainqueur, le Dieu de l'armée, le Dieu puissant, le tout-puissant. Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Parle de Jésus encore, là. Quand vous lisez l'Apocalypse, là, vous allez voir, si vous méditez un peu, vous allez voir, ça, c'est Jésus qui est là. Il continue, Isaïe continue, « On l'appellera Père éternel. » Celle-là, elle frappe quand même. Là, d'appeler son bébé El Gidor ou Dieu Tout-Puissant, on sait que ça, c'est un peu dans la dérape un peu, mais quand on dit à un bébé, on t'appellera Père éternel. Jésus est le Fils, mais il est aussi le Père éternel. Le Fils Père éternel. On l'appellera Père éternel, un enfant. L'enfant nous est né. On l'appellera Père éternel, ou encore le Père d'éternité. Le Père d'éternité. Lui qui vit à toujours. Paul a écrit dans 1 Timothée, c'est comme s'il a transcrit les paroles d'un chant que la première Église devait chanter. En 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, et je suis pas mal sûr que vous connaissez ces paroles-là. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Roi des siècles. Puis, si vous lisez le contexte encore, ça, ça s'adresse à Jésus. C'est de Jésus qu'on parle ici. Et comme Paul, c'est comme il est en train de parler, il écrit ça à Timothée, puis j'ai l'impression que Paul écrivait, puis il était comme béni, puis il a juste arrêté, puis il a juste dit, « Ah! » Il s'est souvenu des paroles du cantique, puis il s'est mis à chanter. Peut-être qu'il chantait, ou peut-être qu'il a juste récité les paroles, peut-être qu'il est juste dit comme ça. Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Isaïe continue et dit, on l'appellera prince de la paix. Le prince de la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. À Éphésiens, il nous dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il continue verset 7, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ici, le contexte parle des Grecs et des Juifs, des païens selon la Bible, puis des Juifs qui se croyaient le peuple de Dieu, ceux qui se croyaient un peu en avance. Il dit, vous pensez proche, mais les autres sont loin. Bien, lui, il a brisé le mur de séparation, il n'y en a plus. Il est venu apporter la paix entre les deux. Il est venu apporter la paix en voulant dire, vous êtes tous des pécheurs, vous avez tous besoin de Jésus dans votre vie, vous avez tous besoin de la paix de Dieu, et je suis venu comme celui qui apporte la paix. Quand un roi arrivait dans une ville et qui arrivait à dos de cheval, c'était un signe de guerre et de conquérant. Quand on voyait arriver un roi avec toutes ces personnes autour de lui, qui rentrait dans une ville avec son cheval, c'était pour la guerre. C'était voulant dire, moi j'arrive, soumettez-vous à moi. Mais quand il arrivait sur le dos d'un âne, c'était la paix. Ça voulait dire qu'il arrivait en paix pour la paix. Il ne venait pas en guerrier, il venait en paix. Rappelez-vous, Jésus est rentré dans Jérusalem, pas sur le dos d'un cheval, sur le dos d'un âne. Et les gens criaient « Hosanna » au Fils du Dieu très haut, parce qu'il était venu apporter la paix, le prince de paix. Le prince de paix. Isaïe dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. » La domination, le gouvernement, la royauté va reposer sur ses épaules. Vous savez, c'est l'image du roi sur lequel on donnait la royauté et qu'on prenait un manteau et on le mettait sur ses épaules, souvent le manteau d'un rouge, un manteau écarlate, et qu'on mettait sur ses épaules en lui disant « Maintenant, tu es le roi ». Et c'était ce manteau qui représentait avec sa couronne et on lui donnait des clés, les clés de la ville, les clés du royaume. Alors, il avait les clés, la couronne et le manteau. C'est ce qu'on mettait sur lui et c'était le symbole. Quand les gens le voyaient avec le manteau, les gens savaient qu'il avait été mis en position. C'était lui maintenant qui était le monarque, qui était le roi de la place. Isaïe dit, et la domination reposera sur son épaule. Dieu le Père est roi, mais Jésus aussi est roi. Il ne peut pas y avoir deux rois, il n'y en a seulement un. Dieu le Père et Dieu le Fils sont rois au singulier. Ils sont le roi parce qu'ils sont un, parce que Dieu est roi, Jésus est roi, le Père est roi et on pourrait dire aussi que l'Esprit est roi parce qu'ils sont un ensemble. Apocalypse chapitre 1 dit, quelqu'un qui, Jean parle d'une vision qu'il voit puis il dit, je voyais quelqu'un ressemblant à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans la fournaise. Et sa voix, comme le bruit d'une grande eau, de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ici, il nous dépeint Jésus, mais il ne ressemble pas à celui-là qu'on a vu dans le film. Non, mais dans le film, il n'est pas comme ça. Dans le film, je pense qu'il n'avait pas vu le film, gentil. Hein? Dans le film, là, il y a toujours une robe, il y a des sandales, il y a une barbe, il paraît bien. Hein? C'est vrai, il paraît bien, il est quand même pas pire, tu sais. Il est toujours un peu perdu, là, tu sais. Il a l'air comme un peu tout le temps, un peu. Il rit pas, mais pleure pas, tu sais. Il est comme, toujours un peu comme neutre, tu sais. Je pense pas que Jésus était comme ça. Moi, je pense que Jésus était de bonne humeur, là, tu sais. Je pense que Jésus était de bonne humeur, puis des fois, il n'était pas de bonne humeur avec certaines personnes, mais d'autres fois, il avait l'air de bonne humeur, OK? Alors, je pense. Mais on le saura bien, mais quand on arrive de l'autre côté, hein? On va savoir. Là, j'étais pas là. Mais j'ai une description que Jean me fait de Jésus qui ne correspond pas toujours à l'image qu'on se fait dans les évangiles. Dans les évangiles, on nous dépeint Jésus comme un humain comme nous, qui est comme nous, qui nous ressemble, qui est capable de vivre les mêmes choses que nous. Et tout cela est absolument vrai. Mais Jean nous décrit un Jésus qui est de l'autre côté. De l'autre côté, dans le royaume céleste. Et quand on le voit, ce Jésus-là, il ne ressemble plus à Sweet Jesus. Parce que là, il y a une grosse épée, les yeux en feu, les pieds en airain qui brûlent. Il a l'air plutôt Powerful Jesus. Là, non, mais il a l'air d'un Jésus beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand. Et il était décrit comme quasiment comme un roi, un conquérant qui s'en vient. Porter le jugement. C'est le même, là. C'est la même personne. Il n'y a pas un problème de personnalité. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Daniel, le prophète, parle un peu comme Jean. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Encore là, il prophétise sur Jésus. Et voici, il va venir, il y a eu la domination, il va avoir l'autorité, il va avoir la puissance, on va lui mettre la cape, on va lui mettre cette couronne, on va lui donner les clés et il va être capable. Jean, il dit dans l'Apocalypse, je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés, j'ai les clés, j'ai la cape, la couronne, je suis le roi, je règne. C'est le Jésus qui était sur la croix, c'est le Jésus qui marchait en Galilée, c'est le Jésus qui est rentré dans nos cœurs, c'est le même Jésus. Jean décrit dans Apocalypse, vous savez, si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir plein d'images de Jésus. À un moment donné, il y a le livre et les sept sceaux. Vous savez, il y a un livre qui dit, personne n'était capable d'ouvrir le livre parce qu'il y avait sept sceaux et personne n'était digne d'ouvrir les sceaux. Et Jean dit, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les sept sceaux. Et l'ange vient voir Jean, dit ça, arrête de pleurer, il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir les sceaux. Il dit, le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir les sept sceaux. Et là, Jean, il rouvre ses yeux, puis là, il dit, j'ai vu quelqu'un qui s'en venait. Et là, il s'en vient, puis il me semble de voir Jean, il s'attend de voir le lion de la tribu de Juda, puis c'est lui qui s'en vient, c'est lui qui va ouvrir les sceaux. Et ça dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un agneau immolé. Un lion, un agneau. Mais c'est la même personne. Jésus sacrifié pour nous, c'est aussi le lion de la tribu de Juda. C'est le lion conquérant, c'est le lion victorieux, c'est le lion qui nous donne les victoires, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus, notre Sauveur. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est notre Jésus. Il est le lion et il est l'agneau. Il est le lion et il est l'agneau. Quand Jésus, juste avant de partir, il nous donne la grande commission, n'est-ce pas? La grande commission, vous connaissez le texte biblique dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et là, ensuite, il est parti. Ouais, ça, on appelle ça la grande commission. Donc, c'est la mission que tous les disciples de Jésus doivent accomplir. Prêcher la parole, enseigner, pas juste enseigner de la doctrine, enseigner à observer, à faire, à écouter. Non seulement entendre, mais écouter. Souvent, les enfants, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Hein? Les enfants de Dieu aussi. Ils entendent la parole, mais ils ne l'écoutent pas toujours. Ouais. Les Hébreux, pour eux autres, le même mot est utilisé pour écouter puis obéir. C'est la même affaire. Écouter, obéir, eux autres, c'est exactement la même chose. Si tu entends, tu es supposé d'obéir. C'est pour ça qu'il faut faire attention des fois. On écoute beaucoup de Bible, on écoute beaucoup de messages, on écoute plein de choses. On sera toujours tenu responsable de mettre en pratique ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté. Jésus dit, il leur a donné cette grande commission-là, mais juste avant, la phrase va comme ça, puis on l'oublie. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné. » Un enfant nous est né, la domination sera sur son épaule. C'est lui le roi, c'est lui qui règne, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il a tout pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit ça. Hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait dire par là? Que croyez-vous que voulait dire Jésus quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume ». Il n'a pas juste dit « OK, on va chercher. Il n'est pas là. Il est où le royaume? Avez-vous le royaume à quelque part chez vous? Là, il traîne dans un coin? Ou... C'est pas ça qu'il voulait dire. Hein? Un royaume, ça implique un roi. Si on cherche le royaume, ça veut dire qu'on cherche qu'est-ce que le roi désire. On cherche la volonté du roi. C'est-à-dire que nous, croyants, qui ont demandé à Jésus de venir dans leur vie, nous sommes maintenant des citoyens de son royaume et il est le roi. Et chercher le royaume, c'est dire, Seigneur Jésus, tu es le roi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je vive? Est-ce que ce que je fais en ce moment correspond à les désirs du royaume? Ou est-ce que c'est selon le royaume de Jacques? Ou le royaume de Joe, ou de Madame Chose, ou de Monsieur Untel. Ce n'est pas le royaume de l'Église, ce n'est pas le royaume du pasteur ici, c'est le royaume de Dieu, le royaume du roi, et ce roi s'appelle Jésus, et ce roi s'appelle Père, et ce roi s'appelle Saint-Esprit, et c'est lui qui est dans notre vie, et il n'est pas seulement un sauveur, mais aussi un roi. Vous savez, souvent on dit « Ah, Seigneur, je t'aime ». Vous savez, le Seigneur, quand on dit ça, ce n'est pas juste le nom de famille de Jésus. Jésus, le Jésus Seigneur. Ce n'est pas son nom de famille, c'est un titre. Seigneur, c'est un titre. Jésus est le Seigneur, ça veut dire roi, Seigneur, ça veut dire maître. Jésus n'est pas simplement celui qui vient nous faire du bien, il est aussi le Seigneur à qui il nous demande qu'on lui obéisse, qu'on lui obéisse. Vous savez, Jésus est Dieu, il est Dieu Tout-Puissant. Souvent, on pense, ah, mais il y a le Père qui est le Tout-Puissant, puis il y a Jésus qui est notre Sauveur, que lui, il comprend ce qu'on vit, puis Dieu le Père, lui, il a besoin que Jésus lui explique pas mal des fois, tu sais. Tu sais, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Là. Fait qu'il va voir Dieu et il explique. Tu sais, tu comprends rien. Tu sais, c'est dur vivre sur la terre. Moi, j'y étais. Tu n'y as pas été. Mais c'est compliqué. Tu sais, puis, tu sais, faut que tu aies de compassion, Dieu. Tu sais, tu veux tout de suite les envoyer en enfer. Relax. Tu sais. Non, ça ne marche pas de même. Dieu, le Père, nous aime. Jésus dit, en Jean 16, il parle à ses disciples avant qu'ils se fassent arrêter tout cela. Puis, tout cela. Il leur dit... Il leur parle du Saint-Esprit qui va leur envoyer un autre consolateur. Puis il leur dit, vous savez, il dit, je ne dis pas que je vais prier pour vous parce que mon Père vous aime. Mon Père aussi vous aime. Il est en train de dire, Dieu, là, il vous aime, il pense à vous autres, puis il se préoccupe de vous. Oui, moi, je suis là, mais il dit, je ne dis pas que je prierai pour vous car mon Père, le Père céleste, votre Père, vous aime. Dieu aussi est préoccupé par nous. Dieu aussi, moi je suis un père, puis je suis un père, comparé à Dieu, la Bible dit que je suis un mauvais père, hein, qu'on est pas, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Comparé à Dieu, là, on n'est pas des super pères. Mais j'aime mes enfants, puis je leur souhaite du bien, puis je leur veux du bien, puis je suis prêt à faire n'importe quoi pour mes enfants. Alors Dieu, le Père, n'est pas dans le ciel en disant s'ils peuvent partir encore un peu, hein, s'ils peuvent souffrir, ça va leur faire du bien, qu'ils apprennent des leçons. Moi, là, je suis père, puis mes fils, des fois, ils font des choses. Puis je ne leur souhaite pas du malheur. Je ne leur souhaite rien de ça. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Mais Jésus est aussi le Jésus de l'Apocalypse. Jésus est aussi ce Dieu puissant, ce Dieu souverain, ce roi des rois, ce roi des rois. Reginald Wallace a dit, « Il n'y a pas d'alliance sans allégeance. » Il n'y a pas d'alliance sans allégeance. On ne peut pas juste dire, Jésus vient comme mon sauveur, mais je ne veux pas que tu règnes sur ma vie. Donner sa vie à Jésus, c'est dire, Seigneur, sauve-moi de mes péchés, sauve-moi de ma vie. Je veux fléchir le genou devant toi pour t'obéir. Je veux fléchir le genou devant toi. Je veux te donner mon allégeance. Je veux être à ton service. Il n'y a pas d'alliance sans allégeance. Sauveur et Seigneur, Il y a un engagement, il y a des responsabilités qui viennent à demander Jésus d'entrer dans notre vie. Il veut être le Dieu de ta vie, mais il veut être aussi le roi. Il te demande, ouvre-moi ton cœur, puis je rentre à l'intérieur de toi. Mais il te dit aussi, fléchis le genou afin que je puisse faire avec toi ma volonté. Ma volonté. Ma volonté. Quand Jésus fut arrêté, l'histoire dans les évangiles, mais en Jean, c'est intéressant de la façon qu'il le raconte. Jésus a été arrêté, puis ensuite, il y a eu un procès, un faux procès, un pseudo-procès, qui était déjà décidé d'avance les résultats. Et les Juifs l'ont arrêté, ils l'ont amené, ils l'ont pendant la nuit, ils l'ont questionné, tout cela. Ensuite, voulant qu'il meure, voulant qu'il soit mis à la peine de mort, ils ont dû l'amener devant l'empereur, devant Rome. Qui était Pilate, qui n'était pas l'empereur, mais qui était représentant de l'empereur. Et eux autres, les Juifs, n'avaient pas le droit d'exécuter selon les lois. Alors, ils devaient avoir que ce soit Rome qui exécute Jésus. Alors, ils l'ont amené devant Pilate. Et en chapitre 18, verset 33, Jésus est amené devant Pilate et Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs, toi? » Là, Jésus dit, est-ce que c'est de toi que ça vient, ça? Ou il y a quelqu'un qui t'a dit de me dire ça? T'sais? C'est-tu eux autres qui t'ont dit que j'étais roi? Ou c'est toi qui es juste comme, tu sais que je suis un roi? Après, ils ont une discussion un peu là-dessus. Et là, vous savez, il y a cette fameuse phrase, là, qu'est-ce que la vérité? Là, tout cela. T'sais? Et là, Pilate ne trouve rien en Jésus pour l'accuser. Alors, il décide de simplement le retourner vers les Juifs. Eux autres, ils ne sont pas contents parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils le condamneraient tout de suite. Alors, ils le retournent parce qu'ils ne trouvent rien de coupable en Jésus vers les prêtres. Et au verset 12 de chapitre 19, ça dit, « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Est-ce que les Juifs se préoccupaient vraiment de César? Si vous lisez l'histoire, là, eux autres, ils voulaient plutôt se libérer de César. En vrai, il était sous l'Empire romain qui régnait à cette période-là et les Juifs, Israël, tout cela, étaient sous le joug de Rome. Alors, ils voulaient des libérateurs. Il y a plein de libérateurs qui sont venus pour essayer de libérer le peuple. Quiconque se fait roi se déclare ennemi de César. Il voulait mettre de la pression sur Pilate. Pilate, ça revient à lui. Alors, il ramène vers César, il ramène vers Pilate, et là, ils ont dit, mais il cria, « Hôte, hôte, crucifie-le! » Il leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Mon œil. « Nous n'avons de roi que César. » Mais non, César, il n'en voulait pas. Voyons, on ne veut pas Jésus comme roi. C'est ça qu'il disait. Et vous savez, dans toute cette discussion-là, Jésus est arrêté, il est là, il pose des questions, et ensuite Jésus va être livré aux soldats. Ils vont le battre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un manteau écarlate et on va lui mettre sur ses épaules. On va lui mettre une couronne d'épines sur sa tête. Et pour le ridiculiser, pour un peu en sarcasme, on va le présenter aux Juifs. « Voici votre roi. Est-ce que je devrais crucifier votre roi? C'est votre roi, ça. C'est lui. Non, c'est pas notre roi. On ne le veut pas. » Et là, Pilate est un peu mal pris parce qu'il y a un petit peu de politique là-dedans. Alors, il n'y avait comme pas beaucoup de choix. Alors, il le livra pour qu'il soit crucifié. Et Pilate va faire écrire un écriteau pour mettre sur la croix. Vous savez, le « Henri »,« Ianeri ». Okay? Alors, si vous ne savez pas c'est quoi que ça veut dire, on va le voir sur l'écran, mais je l'ai fait pour moi. On l'a trouvé, ça, on a fait des recherches archéologiques dans le sous-sol ici, et on a trouvé la vraie, okay, qui est ici. Okay? Alors, vous la voyez. Okay? Alors, c'est vraiment écrit, on l'a vraiment trouvé. Alors, c'est ça que ça avait l'air. Peut-être pas en plywood, là, mais... okay? Alors, mais c'était inscrit, Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ou le roi des Judéens. De la traduction qu'on prend. C'est ce qui était écrit. Et eux autres, ils ont dit, « Écris pas ça! Écris pas ça! Nous, ce n'est pas notre roi. C'est lui qui dit qu'il est notre roi. Nous, ce n'est pas notre roi. Ce n'est pas le nôtre. » Et des fois, je me demande si nous, comme chrétiens, on n'est pas un peu comme les Juifs. de ce temps-là. Je ne dis pas que tous les Juifs sont comme ça, mais de ce temps-là. Où est-ce que Jésus veut être notre roi? Et qu'il aimerait bien mettre l'affiche au-dessus de nous. Pas écrit roi des Juifs, mais peut-être avec ton nom. Jésus, le Nazaréen, roi de Livio, roi de Jacques, roi de Réal, roi de... Ouais. Ou, comme les Juifs, on n'en veut pas. On ne veut pas ce Jésus-là. Nous, on ne fléchira pas le genou devant lui. Pas d'allégeance. Est-ce que Jésus nous demande, suis-je votre roi? Suis-je seulement un sauveur pour vous? Ou suis-je aussi votre roi? Suis-je aussi celui qui a le droit de demander des changements dans votre vie? Demander votre allégeance? Demander que vous vous soumettiez à sa volonté? Demander qu'il vous demande des choses, des changements, que vous abandonniez des choses pour lui? Ou il est juste... Ah, je voulais le sauveur, je voulais juste le feel good de Jesus. Juste le feel good de Jésus. Je veux juste Jésus bon gars, moi, dans ma vie. Le Jésus, le bon roi, je ne suis pas sûr. Vous savez, là, quand on parle de Trinité, on peut voir ça comme une doctrine. Moi, je crois vraiment que la doctrine, la théologie, ce n'est pas elle qui a préscience sur la réalité de Dieu. La doctrine, la théologie n'est qu'une description de ce que Dieu est. De ce que Dieu est. Dieu est le roi. Jésus est le roi. Et il nous appelle tous ce matin à fléchir le genou devant lui. Amen.